L'officier noir, chapitre 2. Le surlendemain au soir, il sommeillait paisiblement sur sa couchette quand un grand coup de poing au-dessus de sa tête, signal convenu pour réclamer sa présence sur le pont, le fit bondir hors du lit, réveillé en sursaut. « Que se passe-t-il là-haut ? » marmotta-t-il en courant pieds nus. En traversant le carré, il regarda la pendule. C'était le second quart. « Que diable peut bien vouloir le second ? » pensa-t-il. En débouchant brusquement de la descente, il trouva la nuit éclairée par la lune et une forte et bonne brise. Il regarda autour de lui d'un air effaré. Personne sur la dunette, si ce n'est l'homme de barre, qui lui déclara immédiatement « C'est moi, capitaine. J'ai lâché la barre une seconde pour frapper au-dessus de votre tête. Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose au second. »« Où est-il parti ? » demanda brusquement le capitaine. L'homme, visiblement nerveux, répondit « Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu dégringoler du haut en bas de l'échelle de bâbord de la dunette. »« Dégringoler du haut en bas de l'échelle de la dunette ? Et pourquoi faire ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Je ne sais pas, capitaine. Il marchait à bâbord et juste au moment où il s'est retourné vers moi pour venir sur l'arrière... »« Tu l'as vu ?» interrompit le capitaine. « Oui, je le regardais et j'ai entendu aussi la chute. Quelque chose de terrible. » Comme si le grand mât passait par-dessus bord. On aurait dit qu'il avait reçu un coup. Le capitaine Jones manifesta son inquiétude et son trouble. « Voyons, » fit-il brusquement, « est-ce que quelqu'un lui a donné un coup ? Qu'est-ce que tu as vu ?»« Rien, capitaine, ma parole. » Il n'y avait rien à voir. Il a tout juste poussé un petit cri, il a étendu les mains en avant, et il a disparu. Patatras, comme je n'ai plus rien entendu, j'ai lâché la barre une seconde. « Tu es effrayé, » lui dit le capitaine Jones. « Pour sûr, capitaine. » Le capitaine Jones le regarda fixement. Il eut l'impression que ce navire silencieux qui poursuivait sa route contenait un danger, un mystère. Il hésitait à aller lui-même à la recherche de son second, parmi les ombres de ce pont si calme, si paisible. Il se contenta de s'avancer et d'appeler les hommes de quart. Dès que les hommes à moitié endormis se furent rassemblés sur l'arrière, il leur cria avec fureur « Que quelques-uns d'entre vous aillent voir au pied de l'échelle de bâbord de la dunette. Allez voir si le second n'est pas tombé là. » Des exclamations stupéfaites lui firent immédiatement comprendre qu'il l'y avait trouvé. L'un d'eux cria même d'une voix troublée « Il est mort !» On étendit M. Bunter sur sa couchette. Et une fois la lampe allumée, on vit qu'il avait l'aspect d'un mort, mais visiblement il respirait encore. On avait éveillé le steward et l'on avait fait prendre le quart au lieutenant. Et pendant une heure environ, le capitaine Jones s'employa silencieusement à essayer de faire revenir à lui son second. M. Bunter, à la fin, ouvrit les yeux, mais il se montra incapable de parler. Il était hagard et inerte. Le steward lui banda une assez vilaine blessure à la tête, tandis que le capitaine Jones tenait une lampe de réserve. Il leur fallut couper une bonne quantité de cheveux noirs de M. Bunter pour faire un pansement convenable. Cela fait, et après avoir considéré un moment leur patient, ils sortirent tous deux de la chambre. « Drôle d'affaire, Stewart !» fit le capitaine une fois dans le couloir. « Oui, capitaine. » Un homme sobre qui a sa tête à lui ne tombe pas du haut en bas d'une échelle de dunette comme un sac de pommes de terre. Le navire est aussi d'aplomb qu'un billard. « Oui, capitaine. » Une attaque de je ne sais quoi, ça ne m'étonnerait pas. Moi, ça m'étonnerait. Il n'a pas l'air d'un homme sujet à des attaques ou à des étourdissements. Cet homme est dans la fleur de l'âge. Je ne voudrais pas avoir une autre sorte de second, même si j'en connaissais. Vous ne pensez pas qu'il ait de l'alcool en réserve, hein ? Il m'a semblé à plusieurs reprises un peu bizarre ces derniers temps. Pas d'appétit non plus, à ce que j'ai remarqué. Ma foi, capitaine, s'il lui est arrivé d'avoir une ou deux bouteilles d'alcool dans sa chambre, elles ont dû disparaître depuis longtemps. Je l'ai vu jeter du verre cassé par-dessus le bord après le dernier grain que nous avons eu. Mais ce n'était pas grand-chose. En tout cas, capitaine, on ne peut pas dire que M. Bunter soit un homme qui s'adonne à la boisson. Non, concéda le capitaine d'un air songeur. Et le steward, fermant la porte de l'office, essaya de se faufiler dans le couloir, avec l'intention de s'offrir encore une heure de sommeil avant qu'il fût temps pour lui de se lever pour son travail. Le capitaine Jones hocha la tête. « Il y a là un mystère. » C'est un effet de la Providence qu'il ne se soit pas cassé la tête comme une coquille de noix sur les bits d'amarrage du pont. Les hommes m'ont dit qu'il ne les a manqués que d'un pouce. » Et le steward disparut adroitement. Le capitaine Jones passa le reste de la nuit et toute la journée suivante à faire la navette entre sa chambre et celle de son second. Dans sa propre chambre, il restait les mains ouvertes sur les genoux, les lèvres serrées et les rides transversales de son front profondément marquées. De temps à autre, élevant le bras d'un mouvement, pour ainsi dire lent et précautionneux, il se grattait légèrement le haut de son crâne chauve. Dans la chambre du second, il demeura de longs moments la main contre les lèvres à regarder cet homme à demi inconscient. Pendant 3 jours, M. Banter ne prononça pas une seule parole. Il regardait les gens d'un air naturel, mais ne semblait pas en état de comprendre les questions qu'on lui posait. On lui coupa encore des cheveux et on lui banda la tête avec des linges propres. On put l'alimenter un peu et on lui donna tout le confort possible. Au dîner, le 3e jour, à propos de toute cette affaire, le lieutenant fit au capitaine cette remarque. « Ces plaques de cuivre sur les marches des échelles de la dunette sont terriblement dangereuses. »« Vraiment ?» répliqua le capitaine Jones avec aigreur. « Il faut plus qu'une plaque de cuivre pour qu'un homme solide s'en aille dégringoler ainsi comme un bœuf qu'on assomme. » Le lieutenant fut frappé de cette opinion et pensa qu'il y avait du vrai là-dedans. Et par un temps superbe, tout parfaitement sec, et le navire marchant aussi d'aplomb qu'un billard, reprit le capitaine Jones d'un air bourru. Comme le capitaine gardait un air assez aigre, le lieutenant ne desserra plus les dents de tout le dîner. Le capitaine Jones avait été froissé de cette innocente remarque, car c'était sur son initiative qu'on avait fixé ces plaques de cuivre sur les marches au cours du voyage précédent pour donner meilleur aspect aux échelles de la dunette. Le 4e jour, M. Banter avait l'air décidément mieux. Encore très languissant, assurément. Mais il entendait et comprenait ce qu'on lui disait, et il put même prononcer quelques mots d'une voix faible. Le capitaine Jones, en entrant, le considéra attentivement sans manifester beaucoup de sympathie. « Eh bien, pouvez-vous nous dire comment cet accident est arrivé, M. Banter ?» Banter remua légèrement sa tête bandée et garda le regard froid de ses yeux bleus fixé sur le visage du capitaine Jones, comme s'il étudiait et appréciait la valeur de chacun de ses traits, le front perplexe, les yeux crédules, l'expression stupide de la bouche tombante. Et il regarda fixement le capitaine Jones avec tant d'insistance que celui-ci commença à se sentir inquiet et jeta par-dessus son épaule un coup d'œil vers la porte. « Cet accident, » murmura Banter d'un ton singulier. « Vous ne voulez pas dire que vous avez eu une crise d'épilepsie ?» demanda le capitaine Jones. « Comment appelleriez-vous le fait d'embarquer comme second sur un clipper avec une chose pareille ?» Banter ne répondit qu'en lui jetant un regard sinistre. Le capitaine remua légèrement les pieds. « Eh bien, qu'est-ce qui vous a fait dégringoler ainsi, alors ?» Banter se souleva un peu et, regardant le capitaine Jones, droit dans les yeux, lui dit d'une voix basse mais distincte, « Vous aviez raison. » Il retomba en arrière et ferma les yeux. Le capitaine Jones n'en put rien obtenir de plus. Et comme le steward entrait dans la chambre, le capitaine se retira. Mais ce même soir, subrepticement, le capitaine Jones, ouvrant la porte avec précaution, entra de nouveau dans la chambre du second. Il ne pouvait attendre davantage. L'impatience contenue, l'agitation qu'exprimait toute sa chétive petite personne, n'échappèrent pas au second, étendu tout éveillé sur sa couchette, avec un air terriblement abattu et parfaitement impassible. « Vous venez vous repaître de moi, je suppose, » fit Banter sans bouger. « Mon Dieu !» s'écria le capitaine Jones en sursautant et en prenant une attitude plus calme. « Eh bien, repassez-vous alors, vous et vos fantômes, vous avez réussi à venir à bout d'un homme. » Cela aussi fut dit par Banter à voix basse et sans beaucoup d'expression. « Voulez-vous dire, » interrogea le capitaine Jones dans un murmure de terreur, « que vous avez eu une expérience surnaturelle cette nuit-là? Vous avez vu une apparition, alors, à bord de mon navire ?» On aurait pu voir la répugnance, la honte, le dégoût peint sur le visage du pauvre Banter, si la majeure partie n'en eût été cachée par de l'ouate et des bandages. ses sourcils d'ébène, plus sinistres que jamais parmi tout ce linge blanc, se froncèrent tandis qu'il faisait un violent effort pour dire « Oui, j'en ai vu une ». Son regard malheureux eut éveillé la compassion de tout autre que le capitaine Jones. Mais celui-ci était tout à l'exaltation de son triomphe. Il était aussi un peu effrayé. Il considérait ce railleur incrédule étendu là et ne devina même pas sa profonde et humiliante détresse. Il était, en général, incapable de prendre une part bien vive à l'anxiété de son prochain. Cette fois, en outre, il était particulièrement impatient de savoir ce qui s'était passé. Fixant son regard crédule sur cette tête entourée de bandages, il demanda d'une voix légèrement tremblante « Et est-ce qu'il vous a jeté par terre ?»« Voyons, vous croyez que je suis un homme à me laisser terrasser par un fantôme ?» protesta Banter en élevant un peu la voix. « Vous ne vous rappelez donc pas ce que vous m'avez dit vous-même l'autre jour ? Des gens plus forts que moi ? Ah ! Vous pourrez chercher longtemps avant de trouver un second plus solide que moi, pour votre navire. » Le capitaine Jones, d'un air ravi, dirigea un doigt solennel vers la couchette de Banter. « Vous avez été terrifié, dit-il. C'est bien cela. Vous avez été terrifié. Ma foi, l'homme de bar lui-même a été épouvanté, quoiqu'il n'ait rien pu voir. Il a senti le surnaturel. Vous êtes bien puni de votre incrédulité, monsieur Banter. Vous avez été terrifié. » « Et en supposant que je l'ai été, déclara Banter, savez-vous ce que j'ai vu? Pouvez-vous concevoir le genre de fantôme qui peut hanter un homme comme moi? Pensez-vous que ce soit une de ces apparitions distinguées pour réception d'après-midi qui visite votre professeur Cranks et ce journaliste dont vous ne cessez de parler? Non, je ne veux pas dire à quoi il ressemblait. Chacun de nous a ses fantômes. Vous ne pourriez concevoir... » Banter s'arrêta à bout de souffle, et le capitaine Jones déclara d'un ton qui trahissait l'ardeur de son contentement « J'ai toujours pensé que vous étiez un homme capable de tout. Bien, bien, ainsi donc, vous avez été terrifié. » « J'ai reculé, » fit brusquement Banter. « Je ne me rappelle rien d'autre. » « L'homme de bar m'a dit que vous êtes tombé à la renverse, comme si vous aviez reçu un coup. » « C'était une sorte de coup intérieur, » expliqua Banter. « Quelque chose de trop profond, capitaine, pour que vous puissiez comprendre. Votre existence et la mienne n'ont pas été pareilles. N'êtes-vous pas satisfait de me voir converti ? » ?»« Et vous ne pouvez rien me dire de plus ? » demanda anxieusement le capitaine Jones. « Non, je ne le peux pas. Je ne le voudrais même pas. Cela ne servirait d'ailleurs à rien. Il faut aller jusqu'au bout de cette expérience. Dites que je suis bien puni. Eh bien, j'accepte la punition. Mais pour en parler, non. » « Très bien, » reprit le capitaine Jones. « Vous n'en parlerez pas. Mais prenez garde que je peux en tirer des conclusions. Tirez-en ce que vous voudrez, mais prenez garde à ce que vous direz, capitaine. Vous ne me terrifiez pas. Vous n'êtes pas un fantôme. Un mot, est-ce que cela a un rapport avec ce que vous m'avez dit ce soir-là lorsque nous parlions de spiritisme ?» Panther eut un air las et intrigué. « Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous m'avez dit que je ne pouvais pas savoir ce dont un homme comme vous était capable. » « Oui, oui, en voilà assez. » « Fort bien, je suis fixé alors, » reprit le capitaine Jones. « Tout ce que je puis dire, c'est que je suis joliment satisfait de ne pas être à votre place, quoique je donnerais je ne sais quoi pour avoir le privilège d'une communication personnelle avec les esprits. Oui, monsieur, mais pas de cette façon. » Le pauvre Banter murmura d'un ton pitoyable « J'ai l'impression d'avoir vieilli de 20 ans. » Le capitaine Jones se retira tranquillement. Il était ravi de voir cet imposant coquin mis plus bas que terre par l'entremise moralisatrice des esprits. Toute cette affaire devint pour lui une source d'orgueil et de satisfaction, et il se remit à éprouver une sorte de sentiment pour son second. Il est vrai de dire qu'au cours d'entretiens ultérieurs, Banter se montra fort doux et déférent. Il semblait se cramponner à son commandant pour en obtenir une protection spirituelle. Il l'envoyait chercher et lui disait « Je me sens tellement nerveux !» Et le capitaine Jones demeurait patiemment pendant des heures dans cette petite chambre surchauffée, très fier qu'on fît appel à lui. Car M. Banter demeura malade et ne put quitter sa couchette pendant de longs jours. Il devint un spirite convaincu Non pas avec enthousiasme, on aurait pu attendre pareille chose de lui, mais d'une façon lugubre et inébranlable. On ne pouvait pas dire qu'il eût vraiment de l'amitié pour les habitants désincarnés de notre globe, comme le faisait le capitaine Jones, mais c'était maintenant une ferme, encore que triste recrue du spiritisme. Un après-midi que le navire était déjà fort au nord dans le golfe du Bengale, le steward frappa à la porte de la chambre du capitaine et, sans l'ouvrir, dit « Le second demande si vous avez un moment, capitaine. Il semble être assez mal. » Le capitaine Jones se leva aussitôt de son divan. « Bon, dites-lui que je viens. » Serait-il possible qu'une nouvelle manifestation spirite se soit produite, pensa-t-il, et en plein jour encore? Cet espoir l'enchantait. Ce n'était pas exactement cela, à vrai dire. Panther, pourtant, qu'il vit affalé dans un fauteuil, il s'était levé depuis quelques jours, mais n'était pas encore monté sur le pont, le pauvre Panther avait une communication assez étonnante à lui faire. Ses mains lui couvraient la figure. Il avait les jambes allongées d'un air d'abandon. « Qu'y a-t-il de nouveau ? » s'écria le capitaine Jones, d'un ton plus aimable, car, à vrai dire, cela lui faisait toujours plaisir de voir Panther dompté, comme il disait. « De nouveau ? » s'écria entre ses mains le sceptique accablé. « Ah oui, d'assez nouveau, capitaine. Comment nier la terreur, la réalité ? Un autre en serait mort sur place. Vous voulez savoir ce que j'ai vu ? Tout ce que je puis vous dire, c'est que depuis que je l'ai vu, mes cheveux deviennent blancs. » Panther retira ses mains de devant son visage, qui retombèrent comme mortes de chaque côté de son fauteuil. Il avait un air accablé dans la pénombre de la chambre. « Que dites-vous ? » bégaya le capitaine Jones. « Ils deviennent blancs ? Attendez un peu, je vais allumer la lampe. » Quand la lampe fut allumée, le surprenant phénomène ne fut que trop visible. Comme si la terreur, l'horreur, l'angoisse du surnaturel s'exhalaient par les pores de sa peau, une sorte de brume argentée semblait s'attacher aux joues et à la tête de Panther, sa barbe tondue, ses cheveux coupés, ne poussaient pas noir, mais gris, presque blanc. Quand M. Panther, la figure hâve, et flageolante encore sur ses jambes, vint prendre son poste sur le pont, il était complètement rasé et sa tête était blanche. L'équipage fut frappé de stupeur. « C'est un autre homme !» murmurèrent-ils. On fut généralement et mystérieusement d'accord pour penser que le second avait « vu quelque chose », à l'exception toutefois de l'homme qui tenait la barre au moment de l'événement et qui maintenait que le second avait reçu un coup. Cette distinction ne faisait guère de différence. D'un autre côté, chacun s'accorda à reconnaître qu'une fois que le second eut repris ses forces, ses mouvements semblèrent même plus lestes qu'auparavant. Un jour, à Calcutta, on entendit le capitaine Jones, désignant à un visiteur son second à tête blanche, debout près de la coupée, déclarer d'un ton d'oracle « C'est un homme tout jeune !» Il va sans dire qu'en l'absence de M. Panther, j'allais rendre visite à Mrs. Panther, régulièrement chaque samedi, juste pour voir si elle n'avait pas besoin de mes services. Ça avait été convenu. Elle n'avait pour vivre que sa délégation, ce qui lui faisait à peu près une livre par semaine. Elle avait loué une chambre qui donnait sur une petite place de l'East End. Et c'était l'abondance auprès de ceux à quoi j'avais entendu dire que le ménage avait été réduit pendant quelque temps lorsque Panther avait dû quitter le service de l'Atlantique. Il avait embarqué comme second sur toutes sortes de paquebots après avoir perdu à la fois son navire et sa chance. C'était l'abondance auprès de l'époque où Panther s'en allait à 7 heures du matin chercher un emploi, sans rien d'autre, en fait de petit déjeuner, qu'un verre d'eau chaude et un croûton de pain. J'en ai froid dans le dos, en me rappelant ce que cette femme de bonne famille avait eu à supporter. La chère Mrs. Panther se fit beaucoup de mauvais sang après le départ du Saphir pour Calcutta. « Ce doit être affreux pour ce pauvre Winston, » me disait-elle. Winston est le prénom de Panther. Et j'essayais de la réconforter de mon mieux. Par la suite, elle trouva à donner des leçons à des enfants dans une famille. Elle passait la moitié de la journée avec eux, et cette occupation lui faisait du bien. Dans la toute première lettre qu'elle avait reçue de Calcutta, Panther lui disait qu'il avait fait une chute contre l'échelle de la dunette, qu'il s'était éraflé la tête, mais que, Dieu merci, il ne s'était rien cassé. C'était tout. Elle reçut naturellement d'autres lettres de lui, mais pendant 11 bons mois, cet animal de panthère ne m'envoya pas la moindre ligne. Je supposais naturellement que tout allait pour le mieux. Qui aurait pu imaginer ce qui se passait? Un beau jour, l'excellente Mrs. Panthère reçut une lettre d'un homme de loi de la cité qui lui annonçait que son oncle était mort, son vieux grigou d'ongle, un agent de change retiré, une antiquité pétrifiée et sans entrailles qui avait traîné pendant des années. Il avait près de 90 ans, si je ne me trompe, et si je rencontrais à cet instant son vénérable fantôme, je tâcherais de le prendre à la gorge et de l'étrangler. Ce vieil animal n'avait jamais pardonné à sa nièce d'avoir épousé Panthère, et bien des années après, quand des gens tenaient à lui faire savoir qu'elle était à Londres et qu'elle mourait presque de faim à 40 ans, il se contentait de dire « c'est bien fait pour cette petite idiote ». Je pense qu'il avait envie de la voir mourir de faim, et ma foi, le vieux cannibale mourut intestat, sans autre parent que cette petite idiote. Les Panthères étaient désormais des gens riches. Naturellement, Mrs. Panthère en pleura comme si son cœur allait se rompre. De toute autre femme, c'eût été simple hypocrisie. Naturellement aussi, elle voulut câbler la nouvelle à son cher Winston, à Calcutta, mais je lui fis voir, la gazette en main, que depuis plus d'une semaine, le navire était porté comme rentrant à Londres. Aussi restâmes-nous à l'attendre, et nous parlions du cher Winston chaque jour en l'attendant. Il se passa juste 100 jours semblables, avant qu'un paquebot l'eût rencontré, tout bien à bord, à l'entrée de la Manche. « Je vais aller au-devant de lui à Dunkerque, » me dit-elle. Le saphir avait un chargement de jute pour Dunkerque. Bien entendu, il me fallut escorter cette chère dame en qualité d'ingénieuse amie. Elle m'appelle encore aujourd'hui notre ingénieuse amie. Et j'avais remarqué que des gens, qui ne me connaissaient pas, me regardaient avec beaucoup d'attention pour découvrir les signes de cette ingéniosité, à ce que je suppose. Après avoir installé Mrs. Panthère dans un bon hôtel de Dunkerque, je m'en allai au bassin. Il était tard dans l'après-midi, et quelle ne fut pas ma surprise de voir le navire déjà amarré. Jones ou Panthère, ou tous les deux, avaient dû souquer le toile pour faire la manche. En tout cas, le navire était là depuis l'avant-veille, et l'équipage avait déjà été débarqué et payé. Je rencontrai deux des mousses qui, leur baluchon sur la brouette d'un Français, se disposaient à rentrer en Angleterre, gais comme des pinsons, et je leur demandai si le second était à bord. « Il est là sur le quai, qui inspecte les amarres, » me dit l'un des gamins au passage, tout en galopant. Vous ne pouvez imaginer le choc que j'eus en apercevant sa tête blanche. Je pus simplement lui dire que sa femme était là, dans un hôtel. Il me quitta aussitôt pour aller prendre son chapeau à bord. Je fus fort surpris de l'aisance de son allure lorsqu'il se précipita pour grimper le passavant. Alors que le second aux cheveux noirs frappait les gens comme quelqu'un d'allure posée et singulièrement imposante pour un homme dans la force de l'âge, cet officier à cheveux blancs semblait le plus extraordinairement alerte des vieillards. Je ne suppose pas que Panthère fût vraiment plus vif sur ses quilles qu'il ne l'était auparavant. C'était la couleur de ses cheveux qui faisait toute la différence aux yeux des gens. Il en était de même pour ses yeux qui vous considéraient avec un regard d'acier, farouche et fascinant au milieu de cette toison noire de boucanier, avaient maintenant une expression innocente et presque enfantine dans leur éclat joyeux sous ses sourcils blancs. Je l'accompagnais sans retard jusqu'au petit salon où l'attendait Mrs. Panthère. Après qu'elle eut versé un pleur sur le défunt cannibale, serré son cher Winston dans ses bras et lui avoir dit qu'il devrait laisser repousser sa moustache, l'excellente dame s'allongea sur le canapé et je laissai le champ libre à Panthère. Il se mit à arpenter la pièce aussitôt en agitant ses longs bras. Il s'anima presque frénétiquement et déchira à belles dents le capitaine Jones à maintes reprises au cours de la soirée. Dégringolé ? Bien sûr que j'ai dégringolé, en glissant à reculons sur les plaques de cuivre de cet imbécile. Ma parole, j'arpentais cette dunette, et je ne savais si j'étais dans l'océan Indien ou dans la Lune. Je devenais fou. La tête me tournait véritablement. J'avais fait ma dernière application de la drogue de notre pharmacien. Ceci s'adressait à moi. Toutes les bouteilles que vous m'aviez remises avaient été réduites en miettes quand ces tiroirs ont dégringolé pendant la dernière tempête. J'étais allé chercher des vêtements secs pour me changer quand j'ai entendu crier « Tout le monde sur le pont !» et je n'avais fait qu'un bond sans penser à repousser convenablement ces tiroirs. Idiot ! Quand je suis revenu et que j'ai vu les bouteilles cassées et tout sans dessus dessous, j'ai cru me trouver mal. Non, voyez-vous, ce n'est pas bien de tromper les gens, mais ne pas pouvoir continuer à le faire quand on a été obligé de commencer. Vous savez, depuis que j'avais été évincé des paquebots faisant l'Atlantique par des gens plus jeunes, uniquement à cause de ma tête grisonnante, vous savez quelle chance j'avais de retrouver jamais un navire et personne à qui se confier. Nous étions un couple isolé, elle et moi. Elle a tout quitté pour moi et l'avoir manqué de pain, il donna un coup de poing à fendre la table de l'hôtelier français. J'en serais arrivé à me faire pirate pour elle, obligé que j'étais d'obtenir un emploi par subterfuge en me teignant les cheveux. Aussi, quand vous m'avez procuré cette merveilleuse drogue de votre pharmacien, il s'interrompit. À propos, cet homme-là fera une fortune quand il voudra. C'est magnifique. Vous pouvez lui dire que l'eau salée même n'y fait rien. Cela dure autant que les cheveux. Fort bien, lui dis-je. Continuez. Là-dessus, il s'en prit de nouveau à Jones avec une fureur qui épouvanta sa femme et me fit rire aux larmes. Essayez seulement d'imaginer ce que c'eût été de se voir à la merci de l'individu le plus mesquin qui ait jamais commandé un navire. Imaginez seulement la vie que m'aurait fait cet animal de Jones. Et je savais qu'après une semaine à peu près, on commencerait à voir mes cheveux blancs. Et l'équipage? Aviez-vous pensé à cela? Se montrer à tout l'équipage comme un imposteur? Quelle vie pour moi jusqu'à Calcutta! Et une fois là, naturellement expédié. La délégation suspendue, Annie toute seule ici sans un sou, mourant de faim, et moi de l'autre côté de la terre, dito. Vous voyez cela d'ici? J'avais bien pensé à me raser deux fois par jour, mais je ne pouvais tout de même pas me raser la tête. Rien à faire, absolument rien à faire. À moins de passer Jones par-dessus le bord. Et encore. Vous étonnerez-vous donc qu'avec tout cela qui bouillonnait dans ma tête, je n'ai pas su où je posais le pied cette nuit-là. Je me suis tout juste senti dégringoler, puis une chute et tout a disparu. Quand je suis revenu à moi, j'ai eu l'impression que ce coup sur la tête m'avait en quelque sorte raffermi. J'étais tellement dégoûté de tout pendant 2 jours que je n'ai voulu parler à personne. Ils ont pensé que j'avais le cerveau un peu ébranlé. C'est alors que cette idée s'est éveillée en moi pendant que je regardais cet imbécile au fantôme. « Ah, tu aimes les fantômes, pensais-je. Eh bien, tu vas avoir quelque chose de l'au-delà. » Je ne me donnais même pas la peine d'inventer une histoire. Je ne pourrais certes pas inventer un fantôme, même si je le voulais. Je n'étais pas en état de faire un mensonge qui se tint, si même je l'avais essayé. Je me contentais de le lui laisser entendre. Savez-vous qu'au fond de lui, il avait l'idée que j'avais dû assassiner quelqu'un et que... « Oh, quel homme abominable !» s'écria Mrs. Bunter du fond du canapé. Il y eut un silence. « Et ce qu'il a pu m'assommer pendant le voyage de retour ?» reprit Bunter d'une voix lasse. « Il m'aime. Il était fier de moi. J'étais converti. J'avais eu une manifestation. Savez-vous ce qu'il voulait ? Il voulait que lui et moi, nous fissions une séance, comme il dit, et que nous essayions de faire apparaître ce fantôme, celui qui m'avait rendu les cheveux blancs, le fantôme de ma prétendue victime. Et, comme il disait, s'expliquer avec lui, le fantôme, de façon amicale. Sinon, Bunter, me disait-il, vous aurez peut-être encore une manifestation au moment où vous vous y attendrez le moins. Et vous passerez peut-être par-dessus le bord ou quelque chose de ce genre. Vous n'êtes pas vraiment à l'abri, tant que nous n'aurons pas, d'une façon ou d'une autre, pacifié le monde des esprits. Conçoit-on un extravagant de cette espèce ? Non, dites-moi. Je ne répondis rien, mais Mrs. Bunter déclara d'un ton très décidé, « Winston, je ne veux pas que tu remettes jamais les pieds à bord de ce navire. »« Ma chère, dit-il, j'ai encore tous mes effets à bord. » Tu n'as pas besoin de ces effets. N'approche plus de ce navire. » Il demeura immobile, puis baissant les yeux, esquissant un vague sourire. « Le navire hanté » fit-il lentement d'une voix rêveuse. « Et le dernier pour vous » ajoutai-je. Nous l'emmenâmes, sans plus attendre, par le train de nuit. Il était très calme, mais en traversant le détroit, comme nous fumions tous les deux un cigare sur le pont, il se tourna tout à coup vers moi et murmura, les dents serrées, « Il ne saura jamais à quel point j'ai été à deux doigts de le passer par-dessus le bord. » Il pensait au capitaine Jones. Je ne répondis rien. Mais le capitaine Jones, à ce que j'appris, fit toute une histoire de la disparition de son second. Il mit sur pied toute la police française. Il voulait qu'on draguât le bassin pour retrouver le corps. À la fin, il dut probablement recevoir un mot des armateurs, le priant de cesser toute cette agitation et lui disant que tout était en règle. Je suppose qu'il n'a jamais rien dû y comprendre. Aujourd'hui encore, il essaye parfois, il est retraité maintenant et sa conversation n'est pas très cohérente, il essaye de vous raconter l'histoire d'un officier noir qu'il a eu jadis, un redoutable coquin à allure de gentleman, avec une chevelure noire comme du jais, qui est devenu soudainement blanc à la suite d'une manifestation de l'au-delà. Une apparition vengeresse. Il est bien difficile de se reconnaître au milieu de ces allusions, aux cheveux noirs et blancs, aux échelles de Dunette, et à ses sentiments et à ses idées, tout cela n'a ni queue ni tête. Si sa sœur, elle est encore vigoureuse, se trouve là, elle coupe court à la chose de façon péremptoire. Ne faites pas attention à ce qu'il dit. Il perd complètement la tête. Joseph Conrad, traduction de Georges-Jean Aubry.